Tamani, toute la voix du Mali.
Studio Tamani, voici les informations en français.
Vendredi 31 janvier 2025 à 18h dans ce studio, même heure à Kangaba. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. L'effondrement d'une mine à Kokoyo dans le cercle de Kangaba fait une dizaine de morts. Selon des sources locales, les victimes sont majoritairement des femmes. La direction générale de la police a procédé hier à l'arrestation de 629 personnes de différentes nationalités au quartier Yirimadjo à Bamako. Ces personnes seraient victimes d'escroquerie. Une convention de financement d'une centaine de sous-projets pour la restauration des terres dégradées a été signée hier à Bamako. Plusieurs régions du pays doivent bénéficier de cette initiative. Les détails à suivre dans un instant à la présentation. Adama Amadou Haïdara, Seydou Daou est à la mise en onde. Plus de 10 personnes ont perdu la vie dans l'effondrement d'une mine à Kokoyo, un hameau situé dans la commune de Nouga, cercle de Kangaba. Le drame s'est produit mercredi 29 janvier 2025. De sources locales, les victimes sont des femmes membres d'une association exploitant un ancien site d'orpaillage laissé à leur disposition par une société étrangère d'exploitation minière. Les détails avec Moussa Mali Sissoko.
L'incident s'est produit suite à l'éboulement d'une mine d'orpaillage selon des sources locales. Elles expliquent que plusieurs femmes à l'intérieur se sont retrouvées prises au piège dans l'excavation submergée par une eau boueuse. Ces mêmes sources indiquent que 13 corps sans vie ont été pour le moment retrouvés et les recherches se poursuivent pour tenter de retirer les corps des débris. Le gouverneur de la région de Koulikoro s'est rendu ce jeudi 30 janvier sur le site de Bagama Mining, le lieu du drame, a aussi déplorer des victimes sans donner un bilan. Selon le chef de l'exécutif régional de Koulikoro, ces femmes viennent quotidiennement sur les sites d'orpaillage autour des excavations à la recherche de l'or. Malheureusement, ce mercredi, lorsqu'elles étaient dedans, sous la force de l'eau, une des digues qui encerclait la zone a cédé. Malgré les efforts de recherche, aucun corps n'a été retrouvé, a regretté le colonel Lamine Kapori Sanogo lors de son passage. Le gouverneur a par ailleurs souligné que cet éboulement est arrivé parce que les mesures sécuritaires n'ont pas été observées. Il a ajouté que l'administration serait obligée de prendre des dispositions conservatoires face à une telle tragédie.
Les recherches des corps sous les décombres se poursuivent sur le lieu de l'incident, selon les habitants. Et suite à ce drame, les activités ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre sur le site. Issa Traoré est le secrétaire général de la Société civile du cercle de Kangaba. Il est joint ici par Moussa Mali Sissoko.
Au cours de l'activité, les exploitants chinois conservent l'eau boueuse d'un côté et l'extraction de l'or de l'autre côté. Quand la mine était sur le point de fermer, les exploitants ferment les excavations par l'eau boueuse et souvent ils plantent les arbres. Au moment où les villageois ont appris que la mine était sur le point de fermer ses portes, ils ont demandé aux responsables de laisser les femmes exploiter le site. Donc la mine est transformée en site d'orpaillage. 13 femmes ont perdu la vie dans cet éboulement et certaines ont pu s'échapper. Les activités d'orpaillage sont arrêtées pour le moment. Les recherches des corps continuent. Kangaba est une zone aurifère par excellence. Nous demandons aux autorités de nous aider pour mieux organiser les activités d'orpaillage dans la zone.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Plus de 600 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été arrêtées hier jeudi au quartier Yirimadjo Bakorobabougou suite à une opération spéciale des forces de sécurité. Parmi ces personnes qui sont de diverses nationalités figurent deux Maliens. Ces personnes sont soupçonnées d'être liées à un réseau d'escroquerie qui se cacherait sous la dénomination Kinet. Écoutons Seydou Diarra, contrôleur général et directeur régional de la police du district de Bamako, au micro de Khalifa Goïta.
Une descente spéciale de police a été opérée à Yirimadjo Bakorobabougou avec l'ensemble des forces de sécurité. À l'issue de l'opération, nous avons interpellé 629 personnes de toutes nationalités, parmi lesquelles nous avons 463 hommes et 166 dames. Il y a certaines qui sont porteuses d'enfants. Les nationalités qui font partie du lot, il y a la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Gambie, la Sierra Leone, le Libéria, le Burkina Faso, le Niger, Les personnes qui sont à la base des mouvements de ces individus sur notre territoire, ces personnes les font croire qu'ils vont avoir un avenir meilleur. Ils pratiquent une sorte d'escroquerie et d'anarque en nuisant de la dénomination Cunette, alors qu'en réalité, ils n'ont aucun lien avec cette entreprise. Ces arnaqueurs persuadent leurs victimes de l'obtention d'un emploi rémunéré, moyennant quelque chose, et que la continuité sera de les envoyer sur les côtes européennes. Mais une fois sur place, ce n'est plus le cas. Ils les incitent davantage à faire venir d'autres personnes aussi qui vont leur payer des sous. Une des conséquences de leur présence dans notre pays, ça peut être l'alimentation de la délinquance. Ils peuvent être utilisés à des fins terroristes, ce n'est pas écarté.
6,9 milliards de francs CFA, c'est le coût de financement de 118 sous-projets de restauration des paysages et retenues dans le delta intérieur du Niger et sur le tracé de la Grande Muraille Verte. La signature de la convention de financement de ces projets s'est déroulée hier jeudi sous la présidence du Premier ministre, général de division Abdoulaye Meïga. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de restauration des terres dégradées. Une attention particulière devrait être accordée aux femmes et aux jeunes dans la réalisation de ces projets. Mohamed Babakunta.
Ce programme couvre les régions des Kayes, Koulikoro, Ségou, Mopti, Douanza, Nara, Nioro et Kita. Ils permettront de restaurer les écosystèmes dégradés, de renforcer la résilience climatique et de créer plus de 100 000 emplois verts. Madou Diallo, coordinateur du projet de restauration des terres dégradées.
Le projet a pour ambition de mettre les populations au cœur de l'action, leur culture, leur savoir-faire et leur milieu naturel. Et nous envisageons de toucher 2 millions de Maliens au minimum.
Ce sont 118 initiatives communautaires qui ont été retenues pour leur pertinence et leur impact potentiel. Elles touchent des domaines tels que l'agroforesterie, la gestion durable des terres, entre autres. Avec des financements allant de 6 millions à 70 millions de francs CFA par ce projet, cette initiative est une réponse concrète aux défis environnementaux, nous dit Kadia Diallo, bénéficiaire.
Nous sommes des exploitantes agricoles. Si nous avons cultivé l'oignon, après la récolte, on ne trouvait pas de marché. Mais après l'arrivée du PRTD, on nous a dit de changer nos cultures, donc de planter des arbres qui vont nous aider à trouver des nourritures et pourront vendre aussi ces arbres-là.
A noter que ces sous-projets ont été retenus suite à un appel à projet ayant recensé 1026 idées dans les 87 communes des 8 régions ciblées par le projet de restauration des terres dégradées.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Eurtel. Financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
À Bamako et dans plusieurs localités, les légumes frais inondent les marchés. Des ménagères expliquent cette abondance des légumes par la saison froide. Selon elles, le prix est abordable et la qualité y est également. Écoutons ces réactions recueillies à Bamako, Sikasso, Ségou, Yoroso et Kay. C'est dans la rubrique « On en parle ».
Quand les légumes sont abordables sur le marché, cela profite aux ménagères et les sauces deviennent plus succulentes.
À Sikasso, nous avons de la tomate et du piment abondamment. Le thym est cédé à partir de 100 jusqu'à 500 francs le prix et l'oignon varie de 500 à 650 francs.
C'est la saison des légumes en ce moment à Ségou.
Vous savez. Ici à Yoroso, les légumes, c'est moins cher par rapport au mois passé.
Maintenant, les légumes sont à notre portée en termes de prix et d'abondance, surtout le haricot vert, les poivrons, etc. L'oignon était cédé autrefois à 1500 francs CFA le kilogramme. Aujourd'hui, nous l'achetons à 650 francs CFA.
Les ménagères se réjouissent de la surabondance des légumineuses sur le marché. Les poivrons, les choux, les aubergines sont accessibles en ce moment.
Le retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO, la suspension des financements américains à travers le monde et le tirage au sort de la CAN Maroc 2025 sont entre autres sujets qui ont dominé l'actualité de la semaine. Le résumé à suivre avec Assitou Kanté.
L'actualité de cette semaine a été marquée par le retrait définitif du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO ce 29 janvier 2025. Pour les autorités de ces pays, la décision est irréversible, même après la prorogation de la période des négociations par l'organisation. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui reste ouverte au dialogue, n'a pas pour le moment pris des décisions pouvant impacter ses rapports avec ces trois pays de l'Alliance des États du Sahel. Par ailleurs, les États-Unis ont décidé de suspendre temporairement le financement de certains programmes à travers le monde, une décision prise par le nouveau président Donald Trump investi il y a une semaine. Au Mali, certaines ONG bénéficiant de l'aide du gouvernement américain s'inquiètent déjà des impacts éventuels de cette décision. Nous terminons cette rétrospective par le tirage au sort de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations effectuée lundi dernier à Rabat au Maroc. Le Mali hérite du groupe A en compagnie du Maroc, pays hôte de la Zambie et les Comores.
Et nous retrouvons à présent Juliette Koulibaly pour l'introduction du club de Tamani. Bonsoir Juliette, de quoi vous allez parler aujourd'hui?
Bonsoir Adama Amadou Aïdara. Le club de ce soir est délocalisé sur le site du festival Orobanya et nous recevons le professeur Adenye Pierre Togo, président de la commission d'organisation du festival Orobanya. Avec lui, on va parler de ce festival qui est à sa 10e édition.
Merci Juliette, bon débat, ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Faites-nous parvenir vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56. À Studio Tamani, nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. C'est pas tout, vous pouvez réécouter gratuitement ce journal et le magazine qui va suivre en appelant le service Kounafoni au 37 321. C'est gratuit, vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Bon début de week-end à tous. Au Mali, une étude de l'Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté publié en 2023, indique que l'artisanat représente 24,2% de la production nationale brute du pays, un témoignage éloquent de la vitalité de ce secteur dans l'économie nationale. Malgré l'importance et la place du secteur dans la vie économique et sociale du Mali, l'artisanat, notamment la menuiserie, reste confronté à d'énormes difficultés, selon des responsables de l'Assemblée permanente des chambres des métiers du Mali. Le magazine Économie du jour est une présentation de Ali Cissé.
La menuiserie et l'ébénisterie sont des métiers de plus en plus prisés au Mali. Les ateliers de menuiserie et d'ébénisterie sont légion un peu partout à travers le pays. Même si la population n'a pas le même avis sur la qualité du travail de ces menuisiers et ébénistes.
Ceux qui sont confectionnés chez nous sont plus résistants que ceux importés.
Effectivement, les produits venant de l'extérieur sont moins chers, mais la résistance quand même n'est pas aussi que ça.
Haruna Fofana est un chef d'entreprise à Bamako. Selon lui, les artisans menuisiers au Mali peuvent aussi faire des merveilles.
Il y a plus de 10 entreprises de menuiserie qui peuvent traiter les marchés publics de l'État relatifs à l'ameublement, entre autres des bureaux des ministres et du président de la République. Nous pouvons le faire de sorte que, quand on l'aperçoit, on ait l'impression que c'est importé de notre pays.
Pourtant, les artisans menuisiers peinent à vivre de leur métier de nos jours, à en croire Jacarija Traoli, président du regroupement des menuisiers de Bamako.
Nous sommes en état de survie dans notre métier aujourd'hui. Du matin au soir, on n'a pas d'électricité. Mais Dieu merci, malgré l'agonie, nous arrivons à payer le loyer. Si ce n'était pas à cause des coupures d'électricité, notre gagne-pain aurait été assuré malgré qu'on ne nous donne pas de commandes publiques.
Si certains clients émettent des réserves sur la qualité du travail de ces entreprises locales, d'autres dénoncent surtout la cherté de leurs produits.
Ceux qui sont importés sont plus bons que ceux confectionnés ici.
Les produits importés et ceux produits ici ne sont pas pareils. Ils n'ont pas le même prix.
Pour le chef menuisier Haruna Fofana, plusieurs raisons expliquent la cherté des ouvrages réalisés par les entreprises maliennes.
Tout ce qui rentre dans la confection de ces équipements au Mali est importé d'ailleurs. Donc les meubles confectionnés ici et ceux importés ne peuvent pas être cédés au même prix. La confection locale de ces équipements crée de l'emploi et réduit le chômage. Les meubles locaux sont plus rentables au pays que ceux importés.
Ces arguments sont soutenus par le président de l'Assemblée permanente des chambres des métiers du Mali, la principale fêtière des artisans du Mali. Selon son président Mamadou Menkoro Traoré, la menuiserie artisanale et l'ébénisterie souffrent du manque des matières premières et de la concurrence déloyale, notamment de la part d'entreprises étrangères.
Le vrai problème, c'est quoi? Difficile à dire, mais c'est réel. C'est des étrangers qui sont venus s'installer en toute illégalité et ils font des meubles en quantité, ils mettent au bord de goudron, ils vendent et qui concurrencent nos entreprises. Si nous pouvons vraiment faire confiance aux menuisiers aujourd'hui, tout ce que vous achetez comme importé, nous pouvons le faire localement.
Ces difficultés auxquelles est confrontée confronter le secteur de la menuiserie et l'ébénisterie impacte aussi les revendeurs de bois, indispensables à la création des meubles, notamment les fauteuils, lits, tables à manger, entre autres. Mahamadou Doumbia est un vendeur de bois à Kalamankoura.
Le problème que nous avons est relatif à l'électricité, parce que le bois à l'état brut est superfétatoire. Il faut la machine pour la découper, la raboter et faire des dessins dessus. Et sans l'électricité, cela n'est pas possible. Donc quand nous sommes à l'arrêt, forcément les menuisiers aussi seront à l'arrêt. Nous cédons le bois à des prix souvent dérisoires proposés par des clients juste pour ne pas rester sans rien faire.
Malgré la difficulté énumérée, les économistes soutiennent pourtant que l'artisanat reste un secteur important pour l'économie nationale. Selon eux, sa modernisation va accroître sa contribution à l'économie. Mais pour les artisans, seule la confiance des pouvoirs publics en leur travail permettra d'accroître leur contribution à l'économie nationale.